Mais vraiment, quelle joie de pouvoir apporter la parole ici. C'est toujours pour moi un plaisir de venir à La Prairie, d'autant plus qu'à chaque fois que je viens, il y a plus de personnes ici dans ce lieu. Est-ce qu'on peut applaudir ce que Dieu fait ici à La Prairie? C'est magnifique ce que Dieu fait. Et combien savent que c'est juste le début? Amen. C'est juste le début de ce que Dieu va accomplir ici. Alors, tous les environs, Condiac, Candiac, Sainte-Constant, tout ça, on va tout envahir pour Nouvelle Vie, pour faire avancer l'Église. Et c'est ma joie de conclure cette thématique sur les prières de la Bible. Combien ont été bénis par cette thématique-là? Thématique sur la prière, et bien souvent on commence justement par la prière, nos séries du mois de janvier. Et aujourd'hui j'aimerais commencer mon message en vous parlant d'un fait divers sur lequel je suis tombé cette semaine. Ça s'est passé en France, et c'est une personne qui a gagné au loto 1 million d'euros. On est tous d'accord qu'on aimerait avoir cette somme d'argent sur notre compte en banque. En tout cas, si c'est pas vous, moi, je suis loin du compte. Et jusque-là, rien d'anormal. La personne gagne 1 million d'euros, c'est incroyable, elle avait sûrement joué depuis des années, tout ça, bonne nouvelle. Sauf que cette personne-là a oublié de venir réclamer son don, et depuis mardi 31 janvier, cette semaine, ce mardi-là, elle a officiellement perdu ses 1 million d'euros. Ça fait très très mal, puis je me mets à sa place, ça faisait peut-être des années qu'elle jouait, puis enfin elle a pu gagner son million d'euros là, mais juste parce qu'elle ne l'a pas réclamé, elle est passée à côté de ça. Et bien qu'on est à l'église et qu'on n'encourage personne à jouer à des jeux d'argent, okay, on ne voyait pas d'email à Pasteur Ben, okay, y a personne qui encourage, mais ce fait divers-là est porteur de leçons pour nous. Porteur de leçons parce que la parole de Dieu nous dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous pouvons un peu comme cette personne-là passer à côté de bénédictions et de littéralement des trésors que Dieu veut nous donner simplement parce qu'on ne demande pas, simplement parce qu'on ne les réclame pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais parler sur le sujet de la prière parce que moi, c'est un sujet qui me parle particulièrement parce que si je suis honnête avec vous, moment confession, on est en famille, on est à l'église ce matin, pendant longtemps, moi, j'ai douté de l'utilité de la prière. Même après ma conversion, je me disais, Dieu, il connaît tout de moi. Il connaît mes pensées, il sait ce que j'aime, il sait c'est quoi mes désirs, il sait c'est quoi mes besoins. Et il m'aime et il veut mon meilleur. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de lui demander quelque chose puisqu'il le sait déjà? Puis pendant longtemps, j'ai douté de l'utilité de la prière. Je remettais en question tout ça. Puis à chaque fois que j'entendais des messages sur la prière, je faisais, c'est comme si je ne les prenais pas au sérieux. Jusqu'à ce que je tombe sur un verset qui m'a fait prendre la prière au sérieux. Et ce verset se trouve dans Jacques 4, verset 3. Et ça va comme cela. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Imagine des choses que Dieu aimerait te donner qui te sont disponibles par la prière, mais que tu manques chaque année simplement parce que tu ne demandes pas. Puis dans la prière, il est primordial de faire la différence entre la volonté inconditionnelle de Dieu et la volonté conditionnelle de Dieu. Dieu a une volonté inconditionnelle où quoi qu'il arrive, ça va arriver. Par exemple, la venue de Jésus pour venir sauver l'humanité, c'était un décret de toute éternité, c'est sûr et certain que ça allait arriver. Prière ou pas prière, Jésus allait venir pour sauver l'humanité. Combien sont reconnaissants que Jésus est venu? Mais ça, c'est la volonté inconditionnelle de Dieu. S'il a une volonté inconditionnelle, il a également une volonté qui est conditionnelle. Des choses qu'il veut pour ta vie, mais qui sont conditionnelles à ta vie de prière. Et c'est de ces choses-là dont Jacques parle. Des choses que Dieu aimerait te donner, des choses qu'il aimerait accomplir à travers toi cette année, à travers ton influence dans ta famille, mais qui sont dépendantes de ta vie de prière ou pas. Quelqu'un a dit, si on pense que prier change les choses, il faut croire aussi que l'absence de prière a aussi des conséquences. Et réellement, si aujourd'hui tu es dans ce lieu et que tu pries peu ou pas du tout, ce message est pour toi. Mais ce message ce matin est également pour toutes les personnes qui prient. Vous avez une vie de prière, mais qui ont l'impression d'avoir peu, voire pas de réponse favorable de la part de Dieu. Et parce que le verset continue, et voici ce qu'il dit. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ouch. Ce verset nous dit qu'on peut prier tous les jours, avoir une éthique, une discipline de prière et quand même manquer ce que Dieu a pour nous. Et c'est pourquoi le titre de mon message ce matin, c'est « Comment avoir une vie de prière efficace ?» Parce que si en 2023, tu veux expérimenter tout ce que Dieu a pour toi, tu n'as juste pas le choix d'avoir une vie de prière efficace. Si tu as envie que cette année, ta vie change, tu as envie de voir la main de Dieu agir dans ta famille, dans ta vie, dans la vie de ton entourage, tu n'as pas le choix d'avoir une vie de prière efficace. Combien ont envie d'avoir une vie de prière efficace ce matin? On va voir comment. Et mon premier point ce matin avec vous, c'est prie avec les bonnes motivations. Et la première prière de la Bible qu'on va regarder ce matin, c'est une prière du roi David. Le roi David qui était le roi du peuple d'Israël, le peuple que Dieu avait choisi pour faire une alliance avec lui. On retrouve David à un moment donné, il est dans la joie. Un peu comme vous et moi lorsqu'on reçoit une bonne nouvelle, lorsque Dieu vient d'exaucer une de nos prières, on est dans la joie. Puis David, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui compose des chants. Donc un artiste, lorsqu'il est dans la joie, il compose des chants. Et lui, il compose un chant et durant tout le chant, il loue Dieu. Il vante les mérites de Dieu. Merci Dieu pour ta bonté, pour ta grâce, ta fidélité, ta puissance. Tu es magnifique. Mais il termine son psaume d'une manière intéressante. Il termine son psaume en disant ceci. « Si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, Dieu ne m'aurait pas écouté. Mais voyez, Dieu m'a entendu et il a été attentif à mes supplications. » Loué soit Dieu, car il n'a pas repoussé mes prières, il me conserve son amour et ne m'a pas retiré sa bonté. Dans les derniers versets du psaume, David dit « Merci Seigneur, mais si j'avais gardé des intentions coupables, si j'avais gardé des intentions, des motivations de continuer à marcher dans les voies, en dehors des voies de Dieu, alors je sais pertinemment que ça lui déplaît, si j'avais gardé ces intentions-là, Dieu n'aurait pas exaucé ma prière. » Un peu comme une histoire que j'aimerais vous raconter, une histoire de deux de mes anciens amis. Et je vous préviens, cette histoire est assez troublante. C'est pourquoi je vais garder, pour protéger l'anonymat de mes deux amis, on va les appeler Benoît et Jean. Okay? Benoît et Jean étaient des très, très grands amis. Okay? Ils étaient toujours ensemble, ils riaient ensemble, ils ont passé les moments difficiles, leur joie, leur peine, ils les ont vécu ensemble, grande complicité. À un tel point que Benoît, il était toujours chez Jean. Toujours chez Jean à... comme faire ce que les jeunes adultes font, jouer à la PlayStation, passer du temps, regarder des films, rire, niaiser, toutes sortes de choses. Il était tout le temps chez lui. Sauf qu'à un moment donné, Benoît est passé par un moment difficile, il a perdu son père. Et comme toute personne qui perd un de ses membres chers, un des membres de sa famille, il est passé par une période de deuil ou des pensées vraiment sombres, beaucoup de tristesse, beaucoup, vraiment un moment difficile. Et dans ces moments difficiles-là, vous savez comme moi qu'on a besoin d'être entouré. On a besoin d'être entouré par les personnes les plus proches de nous. Et Jean était cette personne-là pour Benoît. Jean était toujours proche de lui, à un tel point que Benoît en passait encore plus de temps chez Jean. Même parfois, il dormait là-bas, on avait l'impression même qu'il vivait là-bas. Et une des rares fois où Jean et Benoît n'étaient pas ensemble, Jean était avec d'autres amis à lui. Il y a des gens qui lui ont fait, ses amis lui ont fait une remarque. Ils lui ont dit, mais on a l'impression que Benoît, il est souvent chez toi. Hein. J'ai l'impression qu'il abuse un peu de ton hospitalité. Et là, Jean a dit quelque chose qu'il allait regretter plus tard. Une plaisanterie de mauvais goût. Il a dit, vous savez quoi, là, il abuse vraiment, maintenant c'est moi son père à Benoît. Une blague de mauvais goût, manque de loyauté, manque de tout ce que vous voulez, vraiment méchant. Et puis, suite à cette blague-là, tous ses amis ont rigolé, tout ça. Puis, moi, j'habitais dans une petite ville, et cette histoire est arrivée aux oreilles de Benoît. Et Benoît, c'était un de mes meilleurs amis à l'époque. Il faut savoir quelque chose sur Benoît, c'est que Benoît, c'est quelqu'un de très impulsif. Le genre de personne qui pète une coche rapidement et qui agit et qui réfléchit après. Est-ce qu'il y en a comme ça dans la salle? Ok, levez pas la main. Benoît, il était vraiment, vraiment impulsif. Et puis, lorsqu'il a appris ça, il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère et il a décidé d'aller se venger. Et il connaissait la maison de Jean par cœur. Et il savait que lorsque Jean partait en soirée ou quoi que ce soit, la porte de derrière, il la fermait jamais à clé. Donc, il a décidé d'aller avec ses amis et d'aller le cambrioler, de voler toutes ses affaires, de casser ses objets de valeur, tout ça. Benoît était très impulsif. Mais sauf que Benoît était également quelqu'un de religieux, quelqu'un qui croyait en Dieu, qui parlait souvent même de la prière. Moi, je suis un gars qui prie, tout ça. Puis nous, lorsqu'on a appris ça, on allait le confronter, on a dit « Mais Benoît, mais tu dis que tu es croyant, tu dis que tu pries, ton Dieu, il en pense quoi de ça ?» Et là, Benoît nous a répondu une réponse légendaire, une réponse dont lui seul a le secret. Il nous a dit « Non mais gars, vous ne comprenez pas, avant de le cambrioler, j'ai prié, voyons. Et j'ai dit « Dieu, pardonne-moi pour le péché que je suis sur le point de commettre. » Et lorsque, c'est pas fini, lorsque je cassais sa télé, je disais « Dieu, pardonne-moi pour le péché que je suis en train de commettre. » Puis là, je sais ce que vous vous dites. Surtout vous, à Nouvelle-Ville, à Prairie, vous êtes remplis du Saint-Esprit, chrétiens matures. Vous, je sais, à Longueuil, je ne suis pas trop sûr, mais vous, je sais que vous êtes vraiment des chrétiens matures, remplis du Saint-Esprit, ça, c'est une évidence. Vous savez très bien qu'on ne peut pas faire ça. Tu ne peux pas prier et demander à Dieu de te protéger alors que tu es sur le point de désobéir de manière totalement volontaire et consciente. Ça ne marche juste pas comme ça. Pourtant, est-ce que ça pourrait nous arriver de demander à Dieu la faveur dans un domaine de notre vie, sachant très bien qu'il y a un autre aspect de notre vie où on ne marche pas dans ses voies, où on lui désobéit volontairement et où on n'a aucune intention d'arrêter? Est-ce que ça pourrait nous arriver, ça? Puis attention, je ne suis pas en train de dire que pour avoir une vie de prière efficace, pour avoir des, vies, pour avoir des prières répondues, il ne faut plus jamais pécher. Sinon, on serait tous disqualifiés. Mais ce que je dis est plus important, ce que la parole de Dieu dit à travers David, c'est que pour avoir une vie de prière efficace, nous devons avoir une vie de repentance authentique. Que bien que nous ayons péché par le passé, nous ne planifions plus de péché dans le futur. Jésus exprimera la même idée en Matthieu 5, 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Si tu t'apprêtes à venir face à moi et que tu te souviens de manière consciente que tu es en conflit avec quelqu'un, que tu dois aller demander pardon ou te faire pardonner, laisse ton offrande, va régler ce conflit-là et reviens à moi après. Pour avoir une vie de prière efficace, nous devons avoir une vie de repentance authentique. L'un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas avoir une vie, une vie de prière où tu vois la main de Dieu agir dans ta vie et dans celle de ton entourage si tu n'as pas une vie de repentance authentique. Et avec le temps, j'ai découvert une prière. Une prière à laquelle Dieu répond toujours et quasiment instantanément. Vous voulez savoir de quelle prière je parle, hein ? Une prière, sans blague, une prière où Dieu répond quasiment toujours et de manière instantanée. Cette prière-là vient, encore une fois, du roi David, qui l'a priée il y a des milliers d'années et qu'on retrouve dans le psaume 139. Et cette prière, c'est la suivante. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Cette prière-là a marqué ma vie. Cette prière-là a marqué ma vie, m'a fait prendre des décisions radicales pour Jésus. Mais récemment, alors que je parlais dans un café avec un ami à moi, il m'a amené dans une autre compréhension, dans une dimension encore plus grande de compréhension de ce verset-là. Parce que dans les dernières années, c'est comme si je comprenais ce que ça voulait dire. Okay, sonde moi, oh Dieu, c'est comme regarde à l'intérieur de mon cœur, tout ça. Mais il m'a expliqué ce que voulait dire une sonde. Une sonde, c'est un instrument destiné à explorer les canaux de l'organisme. C'est un instrument en forme cylindrique, la plupart du temps qu'on introduit à l'intérieur du corps pour diagnostiquer un patient. C'est quelque chose qu'on met à l'intérieur de ton corps qui peut être douloureux. Okay, si vous avez des doutes, souvenez-vous juste des tests PCR qu'on nous a mis dans le nez durant les deux dernières années. Ça, c'est une douleur. Se faire sonder, c'est encore 10 fois plus douloureux. Et j'aimerais vous dire que cette prière-là, elle peut être douloureuse. Moment de confession, encore une fois, c'est une prière, moi, que j'ai commencé à avoir peur de prier. Parce que je savais qu'alors que je priais, que je faisais cette prière de manière vraiment honnête devant Dieu, « Seigneur, montre-moi s'il y a quoi que ce soit dans ma vie en ce moment qui te déplaît, qui met une distance entre toi et moi », je savais qu'il allait pointer des choses auxquelles j'étais profondément attaché, mais qui nuisaient à ma relation avec lui. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que je priais, Dieu mettait le doigt sur quelque chose. Parfois, c'était d'aller demander pardon à quelqu'un ou de pardonner quelqu'un. Parfois, c'était un style de vie, une habitude qu'il fallait que j'abandonne. Parfois, c'était un péché qu'il fallait que j'aille confesser à un de mes frères, à un de mes amis, que j'enlève mon orgueil, que j'enlève ma fierté et que j'aille lui confesser. Mais je peux vous garantir une chose, c'est que peu importe à quel point ça pouvait être douloureux, peu importe à quel point Dieu, ce que le Saint-Esprit me donnait à cœur, la conviction qu'il me mettait, à quel point ça pouvait être difficile, je n'ai jamais regretté d'avoir obéi à Dieu. Parce que alors que tu obéis à Dieu, la paix que tu commençais à perdre, parce que vous savez comme moi que lorsque tu es dans le compromis, tu ne peux pas être en paix. Tu ne peux pas être en paix et marcher dans le compromis. Mais alors que tu t'obéis à Dieu, que tu relâches ce qu'il faut que tu relâches, la paix que tu as perdue, tu recommences à l'avoir à nouveau. L'amour pour Dieu et pour les gens recommence à prendre vie. La foi que Dieu peut et veut accomplir des grandes choses dans ta vie et à travers toi recommence à prendre vie. La joie que tu avais perdue, l'espoir que tu avais perdu recommence à prendre vie. Qu'est-ce qui, en ce moment, dans ta vie, met une distance entre toi et Dieu? Si Jésus était assis à côté de toi physiquement et que tu lui posais la question, Jésus, qu'est-ce qui, en ce moment, met une distance entre toi et moi? Qu'est-ce qui, en ce moment, nous empêche d'être plus proches? Qu'est-ce que tu penses qu'il répondrait? Et je suis convaincu qu'en ce moment, le Saint-Esprit est en train de mettre des convictions dans la vie de plusieurs. Et peu importe à quel point ce que le Saint-Esprit te dit en ce moment, obéis. Parce que tu vas découvrir le plus grand secret, un des plus grands secrets d'une vie chrétienne épanouie. C'est que pour recevoir, il faut premièrement relâcher. Relâcher notre désir de tout contrôler. Relâcher les habitudes qu'on a, qu'on sait très bien qui déplaisent à Dieu. Pour recevoir, il faut relâcher. Et à chaque fois, ce que tu reçois est toujours plus grand et plus beau et plus glorieux que ce que tu relâches. Tu peux faire confiance à Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir ce Dieu qui est digne de confiance? Mais par contre, il ne faut jamais, je dis bien jamais, laisser la honte et la culpabilité de nos erreurs passées venir paralyser notre vie de prière. Parce que bien souvent, ça peut être une des craintes. Puis, parce que le même David qui dit « Si j'avais gardé des intentions coupables dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas écouté, n'aurait pas exaucé ma prière », ce même David-là, dans le psaume d'avant, le psaume 65, verset 4, dira ceci « Le poids des fautes pèse sur moi, il est trop lourd, mais tu pardonnes tous nos péchés. » Oui, on cherche à vivre sans compromis, mais ne laisse pas la honte et la culpabilité venir voler ta vie de prière, venir paralyser ta vie de prière, parce que Jésus est venu mourir à la croix pour tes péchés passés, présents et futurs. Et parce qu'il l'a fait, peu importe ton passé, si aujourd'hui tu es enfant de Dieu, tu peux t'approcher de lui avec assurance et confiance, sachant que tu es le bienvenu dans sa présence. Ça, c'est le message de l'Évangile. Parce qu'il y a un ennemi qui rôde. Ce message, il faut que tu te le prêches tous les jours, parce qu'il y a un ennemi qui rôde et qui a pour but de paralyser ta vie de prière. Parce qu'il sait très bien qu'un chrétien qui a une vie de prière efficace, c'est un chrétien dangereux pour le royaume de Dieu. Un chrétien qui fait avancer les choses, qui a de l'impact dans le monde spirituel, qui fait bouger les choses dans le ciel, mais sur la terre également, qui a une influence. Et il va tout faire pour paralyser ta vie de prière. Et sa stratégie, en passant, c'est toujours la même. Lors de la tentation, c'est de banaliser le péché, de dire « Ah, oh, c'est pas bien grave, fais-le, tout le monde le fait anyway, puis il n'y a personne qui te voit. Les conséquences ne vont pas être si grandes que ça. » Puis admettons même, Dieu va te pardonner, c'est un Dieu de pardon, non ? De banaliser le péché. Puis une fois que tu as cédé à la tentation, te remplir de honte, de culpabilité, de mettre un poids sur toi, de remplir ta tête de mensonges, de dire hey, « c'était pas la dernière fois que tu disais ? Tu ne devais pas arrêter ? Ça fait combien de fois que tu recommences encore et encore et encore ? » Dieu, il est tanné de te pardonner. Dieu, il a vu clair dans ton jeu, t'es juste un hypocrite. Te remplir de mensonges qui te poussent à t'éloigner encore plus de Dieu parce que t'as honte, t'es rempli de culpabilité, tu dis à Dieu, il ne veut plus rien savoir de moi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Peu importe à quel point tu es allé loin de Dieu, tu peux revenir à la maison ce matin. Puis il y en a ce matin-là, t'es là et puis t'as l'impression que t'es pas digne d'être dans la présence de Dieu. Vous savez, moi j'ai... Une de mes occupations principales à l'église, comme l'a dit Pasteur Ben, c'est d'être avec les ados. C'est de les accompagner dans leur foi, dans leur questionnement, tout ça. Puis la génération d'ados qu'on a en ce moment de 13 à 18 ans, une des valeurs qui les caractérise, c'est l'authenticité. Eux, ils veulent être authentiques. Eux, ce qu'ils détestent le plus, c'est les gens qui sont fake. Ok, eux, ils veulent être vraiment vrais. C'est pour ça que si vous allez sur les réseaux sociaux de vos ados, vous allez voir des photos où c'est mal cadré, où c'est tout flou. Ils font ça volontairement pour montrer que nous, on ne retouche pas les photos. Nous, on est vrais. Nous, on n'est pas fake. Et souvent, bien souvent, quand je discute avec eux, ils me font toujours sourire parce que cette valeur-là, ils la mettent et ils l'insèrent dans leur foi chrétienne. Puis bien souvent, ils me disent, ah, tu sais Thomas, moi, le vendredi soir, moi, je ne chante pas. Moi, je ne chante pas parce que moi, je ne suis pas fake. Je suis pas fake. Je sais que je fais des niaiseries toute la semaine. Donc c'est pas pour faire des niaiseries toute la semaine et venir chanter le vendredi alléluia alléluia. Non non. Parce que là les autres je les vois. Hein. Je les vois sur Instagram à l'école. Ils font n'importe quoi puis ils chantent les chants. Moi je suis pas fake. Moi je suis vrai. Je chante pas. Vraiment une posture. Puis ils se snitchent entre eux en même temps. C'est vraiment pitoyable. Mais à chaque fois qu'ils me disent ça j'ai la même réponse. À chaque fois j'ai la même réponse. Je leur dis guys, c'est quoi la raison principale pour laquelle on loue Dieu? Vous avez déjà posé cette question ? C'est quoi la raison principale qui nous pousse à louer Dieu, à chanter des chants ? C'est que Jésus est venu mourir à la croix pour pardonner nos péchés. Donc ce qui veut dire que si tu t'éloignes de Dieu cette semaine, tu as encore plus de raisons de lever tes mains et de louer ton Dieu parce que la dette qu'il a effacée à la croix pour toi est encore plus grande que ce que tu pensais. C'est pour ça qu'on loue Dieu. Si tu es enfant de Dieu ce matin, il n'y a plus de condamnation. Dieu a payé pour tes péchés passés, présents et futurs. Et si en ce moment, tu es rempli de honte et de mensonges, accepte l'Évangile à nouveau. L'Évangile, ce n'est pas juste pour ceux qui sont pas chrétiens encore. Non, non. En tant que chrétien, on a besoin de se rappeler l'Évangile à chaque jour, qu'on est pardonné par grâce. Si en ce moment, tu es dans le compromis, reviens d'un cœur tout entier parce que Dieu a plus pour toi. Comment avoir une vie de prière efficace ? Premièrement, en priant avec les bonnes motivations. Et deuxièmement, en persévérant. Moi, je suis convaincu qu'une des raisons principales qui fait que bien souvent, nous avons des échecs ou nous n'avons pas des prières répondues, c'est qu'on abandonne trop vite. C'est qu'on manque de persévérance. Pourtant, à de nombreuses reprises, la parole de Dieu nous encourage et nous rappelle l'importance de persévérer dans la prière. Colossiens 4, 2, persévérez dans la prière. Romains 12, 12, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Beaucoup de passages nous parlent de l'importance de la persévérance dans la prière. Puis si on est honnête, là, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà entendu des messages prêchés là-dessus. Vous avez peut-être même lu des passages dans la Bible qui parlent de la persévérance. Puis même pour moi, en tant que chrétien, je suis né dans une famille chrétienne. Ce n'est pas nouveau, la persévérance dans la prière. Il faut persévérer. Mais récemment, alors que Dieu a particulièrement testé ma persévérance dans la prière, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi Dieu nous demande de persévérer dans la prière? Je peux comprendre qu'il veut qu'on lui demande des choses et qu'alors qu'on lui demande, il répond à nos prières. On comprend que ça vient de lui, on peut être reconnaissant, on peut louer. C'est vraiment lui qui est au centre de notre vie. Mais pourquoi il ne répond pas tout de suite? On serait capable d'être reconnaissant puis de dire « Seigneur, j'ai prié pour cette chose-là, tu me l'as donnée instantanément. La gloire soit à toi, je suis reconnaissant. » Mais pourquoi il nous demande de persévérer? Pourquoi même des fois, il sait qu'il va répondre positivement, mais pourquoi des fois il attend un mois, deux mois, trois ans, quatre ans? Pourquoi il nous demande de persévérer? Et alors que je posais la question à Dieu, il y a une histoire qui m'est venue en tête. Directement une histoire qui m'est venue en tête. Et cette histoire-là, c'est l'histoire de Lazare. Lazare était un ami de Jésus, un ami que Jésus aimait particulièrement, lui aussi et ses sœurs, Marthe et Marie, avaient vraiment beaucoup d'affection. Puis à un moment donné, pour la plupart d'entre vous, vous connaissez cette histoire, Lazare est touché par la maladie, par une maladie vraiment grave qui le laisse au bord de la mort. Et puis là, face à cette situation vraiment quasiment désespérée, Marthe et Marie ont un réflexe. Un réflexe totalement logique, un réflexe évident, parce que elles avaient côtoyé Jésus. Elles l'avaient vu accomplir des exploits incroyables, guérir des malades, redonner la vue à des aveugles. Elles se disent, c'est évident, Jésus là, Lazare, il l'aime beaucoup. Jésus, il a même guéri des étrangers, des gens qu'il ne connaissait même pas. Là, c'est sûr qu'il va revenir, dès qu'il va avoir cette nouvelle-là, il va venir pour guérir Lazare immédiatement. Donc, de manière tout à fait logique, elles envoient des gens prévenir Jésus, de dire, Jésus, Lazare, celui que tu aimes, le texte nous précise bien, celui que tu aimes beaucoup, là, il est malade, il est temps de venir le guérir. Et puis là, nous, en tant que lecteurs avisés, on lit le texte, puis on se dit, ok, c'est le temps de sortir les pop-corn, là. Jésus, il fait plein d'exploits, là il guérit des gens qu'il ne connaît même pas, là, il va guérir, c'est sûr et certain. Peut-être même qu'il va se téléporter, ça va être direct, ça va être fou. Sauf que ce n'est pas du tout ça qui se passe dans le texte. Voici la réaction de Jésus. Lors donc qu'il lui a appris qu'il était malade, il demeura, il est vrai, deux jours au lieu où il était. What? T'apprends que Lazare, celui que tu aimes, est malade, et toi, ta réaction, c'est de rester deux jours puis de continuer tes discussions. La réaction de Jésus paraît juste illogique, même froide, insensible. De me dire, mais Lazare, tu l'aimes, non? Ça ne te fait rien de le voir souffrir? Ça ne te fait rien de le voir agoniser? Puis pense à Marthe et Marie. Elles sont remplies d'inquiétude en ce moment. Elles voient leur frère, qui est leur sang, être au bord de la mort. Ça ne te fait rien? Ça ne te fait rien? Surtout que toi, tu pourrais juste aller le guérir comme ça d'une parole. On ne demande même pas de te déplacer, juste comme le centurion t'avait fait. Juste une parole, tu peux le guérir à distance. Ce n'est pas seulement que tu veux qu'il guérisse, tu peux. Tu es capable de le faire. Mais pourquoi t'attends? Pourquoi est-ce que tu restes deux jours là? L'impression que Dieu est froid, insensible. Puis il y en a, c'est le cri de ton cœur ce matin. Peut-être que tu ne le verbalises pas de manière orale, mais c'est le cri de ton cœur. Face à une situation où ça fait des mois, des semaines, des mois, voire même des années que tu pries, et tu as l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Même au contraire, tu as l'impression que plus tu pries, plus la situation s'empire. Et tu as l'impression que Dieu est juste insensible, froid, qu'il n'y a aucune réponse, qu'il n'entend même pas tes prières. Face à peut-être une situation où au niveau de ta carrière, tu t'attends à ce qu'il y ait des débouchés, à ce que ça avance, puis tu es toujours au même stade. Peut-être au niveau sentimental, tu pries pour un conjoint, une conjointe, puis tu as l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Peut-être au niveau de ta santé, peut-être même, il y en a, tu pries pour le salut d'un des membres de ta famille, puis plus tu pries, plus il s'éloigne de Dieu. Tu as l'impression que, Dieu, tu ne m'entends pas ou quoi? Tu ne vois pas toutes les prières, toute la souffrance qu'il y a en ce moment? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Mais j'aimerais te dire que Dieu a une raison pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il ne fait pas tout de suite, et même pour tout ce qu'il ne fait pas du tout. Et cette raison-là, c'est que Dieu choisit toujours la solution qui va le glorifier le plus et qui va nous profiter le plus. Et cette raison, il nous la donne en Jean 11, verset 3. Il dit ceci, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Ce que Jésus avait en tête pour Lazare, là, c'était beaucoup plus ambitieux que juste accompagner et être à son chevet pour les dernières heures de sa vie. Beaucoup plus ambitieux même que d'aller et de le guérir. Non. Jésus voulait le ressusciter. Il voulait faire quelque chose d'encore plus glorieux que ça. Parce qu'à l'époque, il y avait cette croyance populaire qu'au bout de 2-3 jours, après ta mort, c'est comme si ton âme, elle était encore dans ton corps, tout ça, mais qu'après 4 jours, là, c'était fini. Après 3 jours, c'était fini. Il n'y avait plus aucune possibilité de miracle, que la personne se réveille ou quoi que ce soit. C'était fini, c'était désespéré. Jésus, en revenant plus tôt, il aurait privé Marthe, Marie, Lazare et même nous aujourd'hui de ce miracle incroyable. Contre toute attente, la chose la plus aimante que Jésus pouvait faire pour Lazare, c'était d'attendre 2 jours. C'était d'attendre 2 jours. Et c'est pour ça qu'il dira ceci en Jean 11, 15. « Je suis heureux à cause de vous de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. » Son timing était parfait. Son timing était parfait. Je ne sais pas ce que tu vis ce matin. Je ne sais pas à quel point tu souffres en ce moment, depuis combien de temps, mais j'aimerais te dire, fais confiance à son timing. Parce que si Jésus n'est jamais en avance, il n'est jamais en retard. Est-ce qu'on peut applaudir ce Dieu qui n'est jamais en retard? Mais j'ai une autre bonne nouvelle pour toi ce matin. C'est que Dieu connaît ton futur. Et si tu es enfant de Dieu, la parole de Dieu nous dit en Romains 8, 28 que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qui veut dire que même des pires épreuves, Dieu est capable de faire ressortir quelque chose de beau, quelque chose de glorieux. Tu ne me crois pas? Regarde juste la croix. D'un point de vue extérieur, la croix, il n'y a rien de plus laborieux que ça. Le Fils de Dieu qui meurt. Nommez-moi un événement le plus tragique de l'histoire de l'humanité. Il l'a transformé en l'événement le plus glorieux de l'histoire. Il l'a fait pour Jésus, il peut le faire pour toi, il peut le faire pour moi. Donc en tant qu'enfant de Dieu, c'est une promesse qu'on a que, alors qu'on lui appartient, tout concourt à notre bien. Donc Jésus, il sait que la fin de ton histoire, peu importe à quel point elle est difficile en ce moment, la fin de ton histoire est belle et la fin de ton histoire est glorieuse parce que tu lui appartiens. Mais malgré qu'il connaît la fin de ton histoire, ça ne l'empêche pas d'avoir compassion de ta souffrance présente. Il sait qu'un jour, tu ne vas plus souffrir. Mais bien qu'il le sache, il n'est pas insensible à ce que tu vis en ce moment. Puis c'est ce qui se passe dans le texte encore une fois. Alors que Jésus va vers Lazare et qu'il voit toutes les personnes qui sont en deuil, dans les pleurs, voici la réaction. En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. Jésus pleura. Quand il pense un instant, lorsque Jésus arrive sur les lieux, là, il sait qu'il va ressusciter Lazare, que c'est juste une question de minutes. Il sait que c'est juste une question de minutes avant que les larmes de tristesse se transforment en larmes de joie. Mais Jésus est quand même ému. Il est quand même indigné. Une sainte colère contre la souffrance, de dire, ça c'est ce que j'aime. Oui, je sais que je vais régler la situation, mais je les aime tellement que les voir dans cet état-là, là, ça vient me chercher. J'aimerais te dire que Dieu a compassion de ta peine en ce moment. Bien plus, il la comprend mieux que quiconque parce qu'il l'a vécu lui-même lorsqu'il était incarné ici en tant qu'homme. Il n'y a pas une souffrance qu'on vit en ce moment par laquelle Jésus n'est pas passé. Tu vis de la solitude en ce moment. Jésus s'est senti seul sur la croix alors que pour la première fois de toute l'éternité, il a été séparé de la Trinité. Tu ne te sens pas apprécié peut-être à ta juste valeur. Tu as l'impression que les gens ne remarquent pas ton travail, ne remarquent pas tes sacrifices, ta persévérance, ta fidélité. Tu as l'impression que les gens te prennent pour acquis dans ta famille, à ton travail. Jésus, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, s'est fait clouer sur une croix tout nu. Il ne s'est pas fait traiter à sa juste valeur. Tu souffres en ce moment dans ton corps. Jésus s'est fait crucifier, s'est fait fouetter. Il n'y a pas une seule souffrance que Jésus n'a pas portée. Et c'est pour ça que tu peux venir à lui avec un cœur tout entier de dire, « Seigneur, je peux te partager ma peine. » Dieu, il peut te comprendre. Jésus peut te comprendre. Vous savez, il y a des personnes des fois où on vit des choses, on vit des souffrances sont tellement grandes, puis on se dit, ouais, mais je ne peux pas lui partager à lui, lui, il va pas le comprendre. Ça ne peut pas arriver avec Jésus, ça. Alors tu lui partages ta peine, il comprend. Et il y en a, il faut que tu apprennes à être honnête avec Dieu. Dieu n'a pas peur de tes pensées les plus sombres. Dieu n'a pas peur de tes pensées les plus sombres, de tes doutes, de tes frustrations, de tes colères. Tu as la possibilité de venir les apporter à Dieu. Bien sûr, bien plus encore, c'est que Dieu, ta guérison en dépend. Parce que Dieu ne peut pas guérir ce que tu essayes de lui cacher. Mais alors que tu vis avec un cœur tout entier, Dieu est capable de te renouveler, de te restaurer et de changer ta perspective de ta situation. Fais confiance au timing de Dieu. Mais dans ce combat-là, il faut qu'il y ait une vérité qui ne nous quitte pas, qui ne quitte pas nos yeux et nos pensées. C'est que ses voies sont infiniment au-delà de nos voies. Dieu, il a le big picture. Nous, on a une connaissance qui est juste limitée. La connaissance de Dieu, elle est illimitée. Dieu comprend et connaît toutes choses. Et tu peux lui faire confiance. Il est digne de confiance. Sa parole nous dit que rien ni personne ne peut nous séparer de son amour. Même toi, tu ne peux pas te séparer de son amour. Même tes erreurs, ni la mort, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et en terminant, je pourrais vous parler de plein d'histoires bibliques de témoignage de l'importance de la persévérance de la prière. Mais à la place, j'aimerais vous partager une histoire personnelle. Une histoire personnelle que j'ai vécue moi-même, qui m'a conduit à donner ma vie au Seigneur. Comme vous l'entendez à mon accent, moi je viens de la France, ça fait à peu près 10-11 ans que je suis ici au Québec. Et c'est ici, c'est à Nouvelle-Vie que j'ai donné ma vie au Seigneur. Puis lorsque je suis arrivé ici, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais comme beaucoup d'enfants, adolescents, c'est comme si c'était beaucoup plus la foi de mes parents, c'était pas ma foi vraiment personnelle à moi. Et à un moment donné, je me souviens que je suis arrivé ici au Canada et j'ai commencé à aller à l'église. Pour la première fois, j'avais la possibilité de choisir d'arrêter ou de continuer d'aller à l'église. Et là, tous les parents disent « Amen ». Pour la première fois, j'étais libre, j'avais 17-18 ans, je me disais « Ok, là, je peux choisir ». Et puis, j'ai décidé d'aller à l'église parce que je me disais « Ok, Thomas, tu arrives au Canada, tu connais personne ». Donc, il faut que tu aies un cercle d'amis. Puis, j'avais entendu qu'il y avait une jeunesse à Nouvelle-Vie, Impact, à l'époque, où il y avait plus de 300 jeunes et tout. Puis, je me disais, c'est sûr, parmi ces 300 personnes-là, il va y avoir des jeunes qui ne sont pas des Jesus freaks, okay, où je vais pouvoir avoir des amis, je vais pouvoir me faire un cercle d'amis. Puis, une fois que j'aurai mon cercle d'amis, ciao, bye, l'église, j'en aurai plus besoin. Donc, je décide d'aller à l'église, tout ça, puis d'écouter les messages, la louange, tout ça, puis je commence à aimer ça. Je commence à trouver vraiment un intérêt là-dedans. La louange, les chants chantent bien, les chants sont entraînants. Puis les prédicateurs, ils sont bons. C'est vraiment captivant. Ça m'intéresse vraiment. Puis j'avais noté une des choses que le prédicateur disait souvent, c'est pour passer à un autre niveau dans ta foi, il ne faut pas juste que tes moments avec Dieu, ça soit à l'église. Non. Il faut que tu passes des temps dans la présence de Dieu chez toi, que tu lises ta Bible, que tu pries. Et puis là, il nous racontait des témoignages super inspirants. C'est-à-dire, moi, alors que j'ouvre la Bible, Dieu m'a parlé. C'est comme si le passage est sorti du livre. C'était incroyable. C'est venu toucher ma vie. Là, je me suis dit, waouh, moi aussi, je veux vivre ça. Je vais expérimenter ça à la maison. Ça va être incroyable. Donc, j'ai commencé à lire ma Bible. Je me suis mis à un défi. Un chapitre par jour, je me suis dit, oh, ça y est, là, tu vas devenir un homme de Dieu, ça va être incroyable. Donc, j'ai ouvert ma Bible et j'ai rien compris. J'ai rien compris du tout. Puis, vous savez, lorsque tu viens de finir un chapitre et la première pensée qui te vient, c'est qu'est-ce que je viens de lire déjà ? Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. En tout cas, à Longueuil, ça se vit beaucoup. À la Prairie, je ne sais pas trop, je sais. Mais à Longueuil, on a beaucoup ce problème-là où tu ouvres la Bible et tu ne comprends pas. Tu comprends pas. Ma vie de prière, c'était laborieux. Des fois, je me disais, ah, je vais prier 30 minutes, tout ça. Je prie, puis je lève les yeux. Ça faisait même pas 30 secondes que je priais. C'était vraiment laborieux. Je pensais à mon épicerie, à tout en même temps. C'était juste fou. Puis là, en ce moment, c'est de la thérapie. Puis ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'était que dans la chambre d'à côté, il y avait ma sœur qui priait tous les jours pour moi. Tous les jours, elle priait pour moi. Puis à l'époque, ça faisait peut-être 7-8 mois. Puis elle m'a raconté ça quelques années plus tard. Elle m'a dit, tu sais, Thomas, pendant un temps-là, j'étais tanné de prier pour toi. J'étais tanné de prier pour toi, puis j'ai demandé un signe à Dieu, parce que honnêtement, je priais pour toi, puis j'ai dit à Dieu, Seigneur, ça fait 8 mois que je prie pour toi. Il va à l'église chaque semaine et je vois aucun changement. Il est toujours aussi vulgaire, toujours aussi, il écoute toujours des programmes à la télé, des musiques totalement immorales. Il n'y a aucun changement, il n'y a aucun fruit, aucun changement à sa vie. Seigneur, je te prie pour un signe. Je te prie que demain matin, dès que je me lève, je puisse au moins voir la Bible qui lit sa Bible qui est sur la table de la cuisine. Au moins, je saurais que même s'il ne manifeste pas les fruits de l'esprit, même s'il n'y a aucun changement à l'extérieur, je sais que ça sera le signe entre toi et moi que tu es quand même en train de faire un petit changement dans son cœur. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'au moment où elle fait cette prière-là, ça faisait déjà 8 mois que je lisais ma Bible tous les jours. Mais qu'à chaque fois que je finissais de lire la Bible, je la cachais dans le garde-robe pour pas qu'elle le sache. Parce que vous savez comme moi comment sont les sœurs, hein, surtout les grandes sœurs. Je savais que si elle voyait que je lisais ma Bible, elle allait s'enflammer, elle allait appeler mes parents. Ça y est, Thomas, il va devenir chrétien, pasteur, apôtre des nations, missionnaire. Moi, je voulais me laisser le temps de voir est-ce que c'est vrai cette histoire de Jésus. Donc, de manière religieuse, à chaque fois que je finissais de lire ma Bible, je cachais ma Bible. Sauf une fois. Je me souviendrai toujours, une fois, j'étais en retard pour le travail et là, je pars en vitesse. Et là, une fois que je monte dans le bus, je réalise. J'ai oublié ma Bible sur la table de la cuisine. Mais là, je me dis, ok, c'est pas fini. La bataille n'est pas encore perdue, Thomas. Des fois, ça m'arrivait de rentrer du travail avant ma sœur. Donc, je me dis, ok, c'est parfait. T'as juste à te dépêcher en sortant du travail et puis te dépêcher d'aller à l'appartement. Donc là, je sors du travail, j'ai jamais quitté aussi tôt le travail. Je me suis dépêché, tout ça, je prends le bus, tout ça. Et là, j'ouvre la porte et là, je vois ma sœur. Puis là, avec un sourire et tout, elle fait « Ah, en fait, t'avais oublié ta Bible sur la table, je l'ai rangée à sa place. » Fais un petit clin d'œil. Là, c'est bon. Pendant 8 mois, tous les jours, j'ai jamais oublié de ranger ma Bible. Mais comme par hasard, le lendemain ou le surlendemain où ma sœur a fait cette prière-là, j'oubliais ma Bible sur la table de la cuisine. deux perspectives de persévérance à travers cette histoire. La première, c'est la mienne. Parce que pendant longtemps, même après ma vie chrétienne, où j'avais avancé dans la foi et tout, je me disais, Thomas, ta conversion, elle est arrivée un peu plus tard. C'est un peu plus tard que tu as commencé vraiment à avoir une relation avec Dieu, parce que c'est là où tu commençais à vraiment comprendre ce que tu lisais dans la Bible, que c'est là où tu pouvais prier un peu plus longtemps. Cette période de 7-8 mois, c'est comme tu étais dans la religion encore. Tu étais dans la religion, tu n'étais pas vraiment en connexion avec Dieu. Mais Dieu, à travers cette histoire-là, il m'a repris. Il m'a dit non, c'est pas vrai. Même lorsque tu lisais ta Bible et que tu ne comprenais rien, tu avais l'impression que tu priais, tu pensais à un milliard de choses, moi, j'étais déjà à l'œuvre dans ta vie. J'étais déjà en train de changer ta perspective de la vie, de changer ton caractère. Tu ne t'en rendais pas compte, mais j'étais déjà en train d'agir dans ta vie. Et là, tu as besoin d'être encouragé ce matin, parce que c'est ton histoire. Toi, tu aimes venir les dimanches à Nouvelle-Ville-la-Prairie, la louange incroyable, les messages de Pasteur Ben, de Pasteur Sophie, c'est vraiment bon. Mais tu as l'impression que dès que tu arrives à la maison, Dieu, il ne connaît pas ton adresse. C'est comme si Dieu, il est là à Nouvelle-Ville, à la Prairie, là, mais il ne connaît pas mon adresse. Hein, moi, il faudrait que je lui envoie une petite... renouveler l'info-membre, là, ou quoi. Mais c'est comme Dieu, il disparaît dès que je suis tout seul. Je suis là avec ma Bible, j'ai l'impression que je suis tout seul. Et là, c'est ton quotidien. Et tu sais que tu ne peux pas aller plus loin dans ta foi tant que... Mais j'aimerais te dire, persévère. Persévère, parce que ce n'est pas parce que tu ne ressens rien que Dieu ne fait rien. Dieu, il est à l'œuvre, même lorsque tu ne le ressens pas, même lorsque tu ne pleures pas dans ton salon, tout ça, même lorsque des fois tu ne comprends pas trop, Dieu, il est à l'œuvre. C'est un peu comme lorsqu'on grandit en taille, lorsqu'on est enfant, adolescent. Moi, je suis avec les ados depuis quasiment 10 ans. Il n'y a aucun ado qui m'a dit hey, « Thomas, franchement, cette semaine, j'ai l'impression que j'ai pris 1 ou 2 centimètres. » Personne qui m'a dit ça. À chaque fois, on le réalise quand ? Lors de la visite médicale annuelle. On se fait mesurer, puis oh, tu as pris 10 centimètres, 12 centimètres cette année. Moi, ça m'est jamais arrivé des années comme ça, mais tu sais, c'est OK, une fois par année, OK, tu as pris 10 cm. J'aimerais te dire, peu importe où tu es, persévère. Persévère, lis la Bible, continue à prier, continue à dire non aux distractions. Persévère et je te garantis que l'année prochaine, à la même date, tu vas pouvoir regarder en arrière, tu vas pouvoir dire, waouh, il y a du chemin qui a été parcouru. Persévère, persévère. Mais la deuxième perspective de persévérance, c'est celle de ma sœur. Elle priait pour une situation où elle avait l'impression qu'il n'y avait aucun avancement. Aucun avancement, même des fois, elle me trouvait encore pire. Plus elle priait pour moi, plus mes réactions étaient mauvaises. Et on a, c'est ton histoire encore une fois. Tu pries pour un des membres de ta famille, pour une situation, et tu as l'impression qu'il ne se passe rien. J'aimerais te dire que Dieu est le spécialiste d'agir d'une manière dont on ne s'attend pas. Il est le spécialiste d'agir dans l'invisible. Alors que tu ne le vois pas, Dieu, il agit quand même. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. Dieu, il agit, continue à persévérer. Il y en a, tu as arrêté de prier pour certains sujets. 2023, c'est l'année où tu recommences à prier. C'est l'année où tu recommences à sortir ton armure spirituelle et à fighter et à combattre, parce qu'il y a une grande efficacité à la prière du juste. Et Dieu entend les prières encore et les cris de son peuple, mais persévère. Dieu n'a pas dit son dernier mot dans sa situation. Trop souvent, moi, j'ai laissé le fait que Dieu, parce que Dieu ne répondait pas de la manière dont je m'attendais, dans le timing que je m'attendais, j'ai laissé venir ça ébranler ma foi. Juste me remplir de doutes. Moment de confession, encore une fois, où à un moment donné, chrétien mature, où je commençais même à aller à l'école biblique et tout, j'arrêtais de prier, j'arrêtais de demander des choses à Dieu. Parce que je me disais, lorsque je demande des choses à Dieu, là, que tu le veuilles ou pas, je commence à me créer des attentes. C'est comme si, OK, le pasteur, il a dit, il faut prier avec foi, j'ai la foi, puis je me crains. Puis bien souvent, Dieu, il n'agit pas de la manière dont je m'attendais. Donc, je suis déçu. Donc, je vais arrêter d'avoir des attentes, comme ça, je vais arrêter d'être déçu. Et il y en a, c'est ta réalité en ce moment. Tu n'espères plus en Dieu. Tu ne t'attends plus à des grandes choses de la part de Dieu, parce que tu dis, à quoi bon ? Ton message, Thomas, moi, j'ai déjà vécu. Hein. Je me suis attendu à des grandes choses. J'ai quitté une réunion, j'étais en feu, j'étais primé, j'ai prié pour ma situation. Je me suis attendu à des grandes choses. C'est rien passé. À quoi bon ? À un moment donné, j'ai compris c'était quoi le problème. Mon problème, c'était que ma foi était dans les réponses de Dieu au lieu d'être en Dieu. Vous allez me dire, c'est quoi la différence ? La différence est énorme entre mettre sa foi dans les réponses de Dieu et mettre sa foi en Dieu. Parce que lorsque ta foi est dans les réponses de Dieu, chaque prière non répondue, chaque délai vient ébranler ta foi. C'est-à-dire, OK, mais Si Dieu il existe, bah, ça va être ça sa volonté. C'est exactement comme ça qu'il va agir. Puis dès que ça n'arrive pas, bah, ouais, mais est-ce que Dieu m'aime vraiment? Parce que s'il m'aimait vraiment, il aurait répondu à ma prière. Puis parlant de la prière, est-ce que la prière même, ça marche? Il y en a, tu es même à te demander, ouais, est-ce que Dieu il m'écoute? Est-ce que Dieu existe même? Je prie Dieu, il ne m'écoute pas. Finalement, c'est quoi la preuve que j'ai que Dieu existe? Parce que ta foi est dans les réponses de Dieu. Chaque délai, à chaque fois que Dieu n'agit pas comme tu voulais, ça vient te remplir de doutes et peut même t'éloigner complètement de la volonté de Dieu. Alors que lorsque ta foi est en Dieu, tu peux prier et ne pas avoir peur des réponses de Dieu. Parce que tu sais que Dieu réponde tout de suite, dans un an, dans cinq ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ou même que Dieu ne réponde même pas à ta prière, tu vas être correct parce qu'il va te donner tout ce dont tu as besoin. J'aime beaucoup ce que le pasteur Timothy Keller a dit à ce sujet. Il a dit ceci. Vous ne devriez pas commencer à prier pour tout ce que vous voulez avant de réaliser qu'en Dieu, vous avez tout ce dont vous avez besoin. À moins de réaliser qu'en Dieu, tu as réellement tout ce dont tu as besoin, tes moments de prière, là, ils peuvent même te conduire à avoir encore plus d'anxiété. Comment est-ce que c'est possible? Moi, ça m'est déjà arrivé d'être inquiet, rempli d'inquiétude. Puis là, bah, je suis chrétien, je suis pasteur en plus. Je vais prier, rempli d'inquiétude, je me mets à prier et je sors de mon moment de prière encore plus anxieux et plus inquiet que lorsque je suis rentré. Pourquoi? Parce que dans ces moments de prière-là, bien souvent, je ne remettais pas réellement les choses à Dieu. Je disais à Dieu comment il fallait absolument qu'il agisse dans le timing qu'il fallait qu'il agisse pour éviter une catastrophe. Ce qui fait que je sortais de mon moment de prière en me disant j'espère que Dieu il a bien compris ce qu'il faut qu'il fasse. Parce que sinon, je suis fichu. Ok, je vais aller lui redire. Seigneur, tu as bien compris les instructions. Tu dois agir comme ça, dans ce timing-là. Oubliant à qui je m'adresse. Oubliant que je m'adresse au roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, celui qui a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Celui qui sait mieux que quiconque ce dont j'ai besoin. Et surtout, qui sait quand j'en ai besoin. En quoi est ta foi ce matin? Est-ce qu'elle est dans les réponses de Dieu ou est-ce qu'elle est en Dieu? La seule chose à laquelle tu peux t'accrocher sans endommager ton âme, c'est la main que Dieu te tend. Ce matin, il y en a là, il faut que tu abandonnes. Il ne faut pas que tu abandonnes la prière. Il faut que tu abandonnes le contrôle dans la prière. Que tu dises, Seigneur, je vais prier avec persévérance, je vais prier avec foi, je vais prier avec des attentes. Mais je te laisse le contrôle, je te laisse le comment, je te laisse le qui, je te laisse le quoi, je te laisse le quand. J'abandonne le contrôle. Est-ce que je peux entendre un dernier grand amen, Nouvelle Vie La Privée, ce matin? Je vous invite à vous lever. Je vous invite à vous lever. Et on va chanter ce chant qui déclare la puissance de Dieu et que même lorsqu'on ne voit pas, même lorsqu'on ne sent pas, il agit. Seigneur, on vient devant toi. On vient devant toi ce matin avec humilité. On ne veut pas te dire comment agir, comment, quoi faire, Seigneur Dieu. On veut te dire juste agis. Le comment et le quand, c'est à toi. Parce qu'on sait que tu choisis toujours la solution qui va te glorifier le plus. La solution qui va nous être le plus bénéfique. Seigneur, notre confiance est en toi. Notre foi n'est pas dans tes réponses. Notre foi est en toi. Seigneur Dieu, je te prie pour chaque personne qui est dans ce lieu en ce moment, qui est remplie de doutes, d'insécurité, de crainte, d'anxiété. Éternel, je te prie qu'ils puissent t'abandonner complètement leur vie, qu'ils puissent te dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie et non la mienne. Seigneur, remplis ce lieu de ta présence, Seigneur Dieu. Je te prie pour des libérations ce matin. Je te prie pour des victoires, Seigneur. Je te prie vraiment pour des délivrances, pour une percée. Je te prie pour de la liberté ce matin. Oh Seigneur, fais ce que tu veux dans ce lieu. Fais ce que tu veux dans ce lieu. Commence à prier à ta place. Commence à combattre parce que Dieu veut donner des victoires ce matin. Et là, il faut que tu recommences à prier. Là, il faut que tu recommences à réclamer la faveur de Dieu sur ta vie, sur ton couple, sur ton mariage, sur tes enfants, sur le salut des membres de ta famille, de ton entourage, de tes amis. Alléluia, Seigneur, remplis ce lieu. Remplis ce lieu. Déclarons ensemble la grandeur et la fidélité de Dieu. Alléluia.